C'est bon. Parfait. Bon, on va commencer en prière. On va attendre que le téléphone se taise. On va le mettre sous silence. Il y a des gens qu'on aimerait mettre sous silence des fois, là. OK. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Puis merci pour ce matin avec un beau temps dans l'Assemblée. Puis ton serviteur aujourd'hui qui nous a prêché sur Luc, puis sur plein d'autres passages, des choses extraordinaires. Seigneur, vraiment, je te prie que cet après-midi aussi, par ton Saint-Esprit, que tu me donnes les mots dans ma bouche, puis tu donnes à ton peuple la compréhension dans leur cœur. Sachant que tout vient de toi, Seigneur, je veux pas que ça vienne de moi, puis je veux pas que qu'on marche comme on a marché pendant des années par la chair. Mais merci, Seigneur, que par ton esprit, on découvre tout le temps des choses extraordinaires dans tes richesses. Oui, Seigneur, je te prie de qu'on apprenne des grandes choses cet après-midi. Dans le nom de ton fils Jésus. Amen. 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 Fait que j'ai fait exprès pour prendre un titre le plus long possible, là, comme ça, si vous voulez essayer de le mémoriser, ça va être le fun. Voici l'amour de Dieu dans son incarnation et ses bienfaits en faveur des fils de l'homme. Il rentrait pas plus long sur le bulletin. Je suis tombé sur l'écriture dans Jean 1, là, Jean 1, c'est le début, mais pas juste le premier verset qu'on connaît tous, mais les autres subséquents, où ce que l'apôtre Jean parle de Christ, nous le présente de grandes choses. Dans le verset 19, Jean, il se présente, puis j'avais jamais réalisé ça. Tu sais, il y a des Juifs qui arrivent. Verset 19, puis par la suite, OK, t'es qui, toi, Jean? T'es supposé être qui, là, pour parler au peuple de même? Je comprends pas, là, que c'est pour qui tu te prends? T'es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Je ne le suis point. Quoi que Christ a dit qu'il est venu sous la puissance d'Élie. Puis, il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ce passage-là, là, je parlais à mes témoins de Jéhovah, justement, là, parce que quand tu vérifies les citations, puis d'où elles sont prises dans l'Ancien Testament, tu découvres des choses intéressantes. On connaît tous, pas tous, mais on connaît beaucoup Ésaïe 40. C'est un passage qui peut tourner là, ça va être... On va aller beaucoup dans Ésaïe 40, 41, 42, 43. C'était mon but aujourd'hui de découvrir Christ en bonne partie dans Ésaïe. Puis, Ésaïe, il commence, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Puis là, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ça, c'est Jean-Baptiste qui... On parle de Jean-Baptiste ici, là. Donc, puis c'est intéressant, il parle de l'Éternel aussi, là, tu sais, quand on...
Ouais.
On voit que c'est Christ, là, qui parle, là. Puis, tu sais, si on constate les versets d'avant... Notre servitude hein, qui est finie, notre iniquité qui est expiée. Donc ça, c'est fini, là. Tu sais, on a eu ça en plus. Puis si on continue à planisser dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée. Donc c'est vraiment littéral, là, c'est comme, tu sais, Christ, il est là, en personne. On va planir les sentiers pour une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux et les plaines se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, là, on a Christ qui est révélé en personne dans longtemps, longtemps d'avance. Il est appelé l'Éternel ou Jéhovah par certains. Puis, dans Jean 1, justement, dans le long passage auparavant, il dit, il y eut un homme, Jean 1, 6, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il continue encore en disant, verset 14, « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Là, ça finit plus de toutes les richesses qu'on a en Christ encore. « Nous avons contemplé sa gloire. » Imagine quand on y pense, avoir la gloire de Dieu devant nous. Là. T'sais, réaliser tout ça, là, on a ce... Puis là, t'sais, on l'a en nous. Là. Maintenant, c'est Christ en vous. Là. T'sais, c'est, on n'a pas comme une petite affaire. Là. Donc, on a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, « Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude. » Il est écrit, hein, on a toute la plénitude en lui d'ailleurs, comme il est écrit dans les Épîtres. « Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la vérité sont, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc les deux choses en opposition, on a la loi en opposition à la grâce et la vérité. Puis on a eu grâce pour grâce en Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça c'est un verset qui est cité. D'ailleurs, si vous croisez des témoins de Jéhovah ou d'autres là, qui ne sont pas d'accord avec... ça revient souvent. Là. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. En vérité, ça dit le contraire de ce que juste ce verset-là tout seul voudrait dire. Parce que tout le contexte nous dit qu'on a vu Dieu. Ésaïe nous dit qu'on l'a vu, qui était devant nous. Fait que personne n'a jamais vu Dieu, mais là, il s'est manifesté à tous, là, comme ça. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, qui l'a manifesté, pour ainsi dire. L'Éternel nous a fait la grâce de se manifester devant nous. Nous avons vu sa gloire et son éclat. La gloire et l'éclat des hommes est temporaire, mais celle de Dieu est manifeste pour tous. Ça continue en disant exactement la même chose dans notre passage dans Ésaïe. Puis, imaginez, c'est Jean-Baptiste, il devait lire Ésaïe, puis il devait le lire parce qu'il citait quelques versets plus tôt, il devait s'attribuer ça aussi. Hein. Une voix crie, il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Pierre dit dans 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, puis c'est Christ aussi, là, quand Jean 1 fait le cas que la parole, c'est Christ, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme... » Alors, il vient encore de citer la même affaire, hein? « Comme la fleur de l'herbe, et l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc, verset 9, il continue en disant, « Monte sur une haute montagne, Sion, probablement que Jean-Baptiste s'attribuait ça encore, hein, pour publier la... » Bonne nouvelle, l'Évangile. C'est ce que l'Évangile veut dire là, pour les gens qui ne savaient pas auparavant. C'est le mot grec pour dire bonne nouvelle. Donc, il pourrait être écrit bonne nouvelle à chaque fois. Ouais. Bon. Élève ta voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Imaginez si c'est... Si Jésus n'était pas Dieu, on aurait sujet de crainte. Il pourrait au mieux être un intercesseur, comme dans certaines religions. Mais maintenant, on a le Dieu Tout-Puissant qui dit, ne crains pas. Hein, élève ta voix, ne crains pas. Il dit aux villes de Juda, voici votre Dieu, c'est Christ. Donc, c'est le seul qui peut nous dire, ne crains pas, quand on est devant lui. Sinon, il n'y a pas le pouvoir de nous enlever les choses qui suscitent notre crainte. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Encore un autre passage plein de l'amour de notre Seigneur pour nous. Au lieu de s'attendre à se faire dire de la scrap par la loi, non, c'est fini, il va nous conduire. Il va prendre les agneaux dans ses bras, dans son, les porter sur son ventre, conduire les brebis qui allaient. Ce matin, c'était dans Matthieu 9, moi je l'ai cité ailleurs, ici, hein. Mais ça m'a touché, c'est le Saint-Esprit, je pense, qui a fait ça à notre prédicateur un matin, Josiah, parce qu'il était écrit d'une autre manière. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Dans le passage, il appliquait faussement la loi, on va dire, puis il prenait plaisir à le faire. Mais tandis que Christ, puis Dieu, ultimement, il y a une chose qui prend plaisir là-dedans, c'est la miséricorde. Tu sais, il prend comme largement plus plaisir à la miséricorde qu'à la condamnation. Tu sais, il y a un moment où il n'y a jamais eu de loi, là, quand il pense, là, Adam et Ève, ils n'étaient pas sous une loi. Ben, il y avait un commandement de ne pas prendre l'arbre. Mais tu sais, il n'y avait pas une loi pour ainsi dire, puis la loi est venue longtemps après. Puis Christ est venu pour enlever la condamnation, puis changer complètement la manière qu'on interagit avec Dieu. Donc, la loi ou le bien puis le mal, comme le pasteur parle, l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, tu sais, il y a quelque chose de largement plus que ça parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Donc, c'est pour lui, ça, c'est plus important que la loi. Tout ce qu'on pourrait faire. Puis, c'est en opposition, c'est cité dans les psaumes aussi. Il prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à la miséricorde. Il sacrifie la loi, que la loi demandait. Dans Michée 7, 18, il dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? » Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Si ce qu'on faisait était le plus important pour lui, il garderait sa colère pour toujours. Hein, on n'arrêterait pas de l'offenser. Là. Mais maintenant, il prend plaisir à la miséricorde. Là, donc, c'est complètement une autre chose. Il aura encore compassion de nous. Il mettra ses pieds. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est encore l'œuvre de Christ, hein, quand on y pense. C'est les derniers versets de Michée. Là. Il finit en disant le verset suivant. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu as juré à nos pères au jour d'autrefois. Mais il finit, tu sais, comme le psaume 102, là, que j'avais grandement pris plaisir, que j'avais chanté, puis tout ça, qui a changé ma vie, de découvrir justement comment il est cité dans Hébreu 1 et puis attribué à Christ. Mais là encore, on a des choses qui sont attribuées à Christ. Là. Donc j'ai réalisé récemment, puis j'ai conclu que si on n'a plus à se sentir indigne, on a la justice de Dieu. Puis même, on peut même avoir raison de trouver en nous de la droiture comme étant plus condamné par une loi. C'est toute ma vie chrétienne, là, c'était comme... Si jamais tu dis que t'es bon dans quelque chose, là, faut vraiment pas que tu le dises, là. Faut pas que tu sois bon dans quoi que ce soit. L'approche par la loi, c'est toujours ça, là. Puis tu sais, si tu peux dire que t'es bon dans quelque chose sans orgueil, là, c'est pas le... Puis c'est contrairement à ce qu'on disait, d'ailleurs, tu sais... Devant Dieu, c'est sûr qu'on n'a pas à se vanter de quoi que ce soit, à s'enorgueillir de quoi que ce soit. Mais, regardons le psaume 18, on peut tourner là. Tournez-moi avec d'ailleurs, tant que ça. 18. Ça arrive quelquefois dans la parole de Dieu, puis je pense qu'il y a quelquefois où c'est David, mais David il est là. Dans ces cas-là. Puis, verset 19, il dit... verset 18, excusez. Il parlait des méchants. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large et il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture et m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai été point coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu garde contre mon iniquité. Et l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec les hommes droits, tu agis avec droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, David même, pour ainsi dire, même s'il parle de la loi qu'il a observée, il était coupable selon la loi. Je ne sais pas à quel moment... il avait écrit ça. Il est juste écrit lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Mais on sait que David, avec l'adultère, avec Bathsheba, le recensement qui avait été écrit, qui avait fait à tort, mais Dieu par la suite dit, parlant de son serviteur David, il disait ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Dieu lui imputant sa justice parfaite. Donc, c'est un fait, là, David, il faisait uniquement ce qui est droit, parce que c'est Dieu qui le dit, là, ce qui est droit aux yeux de Dieu. Tu sais, pour nous, c'est tellement dur de se réaliser de même que, tu sais, on va dire, la manière légaliste qu'on était avant, mais même dans le monde, hein, le monde, toutes les athées ou toutes les religions, ça marche de même, là, c'est... Faut que tu fasses les cossins, sinon t'es pas bon, là. Maintenant, tu sais, on parlait ce midi des affaires LGBT, tout ça. Faut que, selon cette religion-là, on va dire, moi j'appelle ça une religion, les athées. Faut que tu sois d'accord avec les LGBT, sinon t'es pas bon, là. C'est leur loi, puis t'en as d'autres lois de même. Puis, maintenant, fait que, tu sais, on s'est tous fait piétiner par tout le monde à cause de tous ces faux systèmes-là. Puis maintenant, on n'a plus à rougir de quoi que ce soit. On n'a plus à marcher dans la honte éternellement à cause de Christ et de son œuvre. Puis, tu sais, c'est le Seigneur qui dit qu'il y a de la droiture maintenant en nous. On a été fait justice de Dieu. J'ai des points été coupables. Ses ordonnances ont été devant moi. Je pense que souvent, quand l'Éternel... quand Dieu parle de la loi, des ordonnances, des prescriptions, il ne parle pas nécessairement de la loi des 613 commandements, ordonnances et prescriptions de la loi de Moïse. Surtout qu'il est écrit dans le psaume 119, tu sais, ils sont comme... comment qu'on dirait ça, là? Ils réjouissent le cœur, là, les commandements de Dieu. Puis, la loi servait uniquement à condamner, comme il est dit dans Romains, donc... on a quelque chose de nouveau qui réjouisse notre cœur. Ce que l'Éternel nous dit, je pense que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui commande aux hommes les choses à faire. Il nous enseigne par ses prescriptions, ses ordonnances, ses commandements. Puis maintenant, on a quelque chose de nouveau qui nous éclaire. Si on continue dans le verset, on revient dans Ésaïe 40, verset 12. En fait, je pense qu'on, celui-là, on va continuer un peu plus tard, un peu plus loin, je veux dire. Ça va être dans le verset 26. Puis, on croit souvent passer, même inaperçu devant Dieu, quand les choses ne vont pas, comme étant pas sûr, pas certain, comme un pasteur, pas sûr dans son amour, là, il dit ça souvent, là, il a raison. Là. Pas avoir de la certitude ou pas avoir comme la sécurité dans son amour. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu veut qu'on constate qu'il passe pas, qu'il ne nous laisse pas comme inaperçu. Verset 26, il dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. » Il parle des étoiles. « Qui fait marcher en ordre leurs armées. » Il les appelle toutes par leur nom. D'ailleurs, leur armée comme des myriades, puis tout ça, c'est l'idée de la chose. Des fois, on dit l'éternel des armées, comme, tu sais, les armées, c'est comme une myriade de choses, une énorme quantité qu'on ne peut pas compter. C'est le but de la chose. Donc, qui fait marcher en ordre leur armée, c'est qu'il y en a comme à n'en plus finir, là, comme une armée de gens qu'on ne peut pas compter devant nous, là, comme les étoiles qu'on ne peut pas compter. Ils les appellent toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On cite souvent ça, les deux d'après, hein, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancillent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc on a encore une autre richesse encore qu'on a pour nous. Le but c'était de découvrir toutes ces richesses-là dans Ésaïe aujourd'hui, puis dans d'autres passages. Puis je crois que, comme on a vu tantôt, il parle Jacob, Israël, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut regarder beaucoup de l'Ancien Testament puis s'attribuer des passages qui sont attribués à Israël. C'est pas systématique. Des fois, en Israël, dans les psaumes ou dans la loi, ou plusieurs places, il est écrit, OK, si tu suis la loi, puis tout ça, tes champs vont verdir, puis... tu vas avoir la grosse pièce, puis la maison, puis tout ça. Des fois, l'évangile de prospérité vont aller dans ce sens-là. Mais ces choses-là ne sont pas nécessairement pour nous, mais je crois que dans plusieurs cas, on peut se l'attribuer comme étant son peuple. Dans Romains 2, 28, il dit « Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible par la chair. » Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc pour nous, on peut même se considérer juif, hein, c'est intéressant. Les gens qui sont contre nous, on peut leur dire qu'ils sont antisémites. Là. Puis encore plus loin, dans Romains 9, il dit « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, il sera appelé fils du Dieu vivant. Ça, c'est pour nous, vraiment. Là. Donc, dans Osée, qui parle de ça comme les choses qu'ils vont faire, Romain le cite comme quelque chose qui est fait. Puis si on revient dans notre texte encore, on va continuer dans Ésaïe 41, 9. Il dit, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tu sais, quand on parle de l'Éternel, qu'on pense qu'il ne se soucie pas de nous, on pense des fois à nos ennemis aussi, sans être certain d'avoir la délivrance d'eux, être incertain de l'amour que Dieu a pour nous. Mais même, Dieu il dit qu'on a plus de valeur même qu'eux autres pour lui. Donc, pour ainsi dire, des fois, il est écrit, Dieu ne fait point de favoritisme. Puis c'est vrai, je pense qu'il appelle tout le monde. Mais il y a un point aussi où ce qu'il préfère ceux qui l'aiment dans ce sens-là. On va voir pourquoi je dis ça. Donc, on va voir plus loin dans Ésaïe, dans le psaume 37, 23. Le pasteur a parlé de ça récemment. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Dans le contexte, c'est l'homme qui le craint. Mais dans Ésaïe, continue, verset 11, « Voici, seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, tous ceux qui disputent contre toi. » On parlait tantôt à Justin Trudeau, les politiciens qui sont pas bons, Hershey, là, les compagnies LGBT qui nous disent qu'on n'est pas bon, les médias, etc. Donc, ils seront réduits à néant ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains point, je viens à ton secours. Ne crains rien, dernier saut de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de points. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Wow, c'est intéressant ça. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Puis, les malheureux, pour ça j'ai découvert récemment quelque chose sur ce passage-là. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le sein de l'Éternel en est l'auteur. Puis, je crois que ce passage-là, on peut l'attribuer littéralement aussi. Okay? Il y a des indigents, des croyants qui cherchent de l'eau, des pauvres, puis tout ça. Il n'y en a pas. Hein? Puis, il va les exaucer. Mais il y a une application encore plus pour nous, je crois. C'est quand on se voit nous-mêmes dans, comme l'homme intérieur, dans le désert, puis dans la sécheresse, je crois que là, on est à l'endroit où ce que Dieu veut nous rencontrer. Puis il veut qu'on le voit dans ces endroits-là. Puis il veut changer le désert en terre ferme. En oasis, comme il est écrit, faire gérer des fleuves, puis tout ça. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu dans le passé, puis tu sais, je suis pas le seul. Là, c'est... Mais quand on constate que en nous, c'est le désert, puis qu'en lui, on a tout, ben c'est là qu'il dit, il va y avoir des sources au milieu des vallées, le désert va être changé en étant, la terre aride en courant d'eau. Mais très dans le désert, là, c'est de l'acacia, le myrte, l'olivier, le cyprès, l'orme et le buis. C'est pas des bois de sheep, on va dire. Donc, lui, il est prêt à mettre ses trésors, puis il va les mettre dans celui qui est dans le désert. Si on continue dans Ésaïe 43, le début. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Là, c'est rendu le contraire. On était dans un désert, pas d'eau, puis là, c'est les fleuves, puis tout ça. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton sauveur. Puis là, c'est là où je voulais en venir tantôt. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'était leurs ennemis. Puis, dans le temps d'Ésaïe, ils prophétisaient pour un peuple qui était en captivité par les Babyloniens, leurs ennemis. Puis là, il dit, comme pour ta rançon, à ta place, là, je vais envoyer eux autres qui vont se faire avoir. Puis toi, tu vas sortir de la captivité. Il y avait une captivité de 70 ans en exil en Babylone. Puis dans toutes les... Babylone, c'était une grande place dans ce temps-là. Puis après ça, c'était les Perses qui avaient pris la place. Ça allait de l'Inde à l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. Donc c'était le plus gros pays du monde de très, très, très loin, qui englobait plusieurs pays maintenant. Puis, il donne ceux-là à sa place parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Puis il l'a fait pour Israël. Tu sais, c'est un fait historique là, que ça s'est passé puis qu'ils ont sorti de là. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je donnerai au septentrion, c'est-à-dire au nord, donne, et au midi, au sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Donc ça s'est passé en Israël, des Israélites qui étaient en exil. Et je crois que ça aussi, on peut l'attribuer à nous, parce que on va avoir pour nous une nouvelle Jérusalem. Puis, il va nous faire venir de tous les pays du monde à lui, de toutes les directions, comme il dit, aux extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé, que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent, qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous a fait entendre les premières prédictions. Là, il parle de toutes les fausses prédictions des autres, mais lui, ils s'accomplissent. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ». Puis là, c'est vrai, on peut le constater, c'est vrai que ça s'est produit, ces choses-là. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. » Les témoins de Jéhovah, là. « Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah. » « Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous le compreniez, et comprenez que c'est moi. » D'accord, Christ qui est manifesté là, c'est un passage là, qu'on attribue à Christ, hein, d'ailleurs. En anglais, là, il est écrit « c'est moi » comme « I am he », « je suis lui », « c'est moi ». C'est intéressant qu'ils disent ça dans le même passage que les témoins de Jéhovah, là. Avant moi, il n'a pas été formé d'autre Dieu, et après moi, il n'en aura point. Il parle de Christ encore, qu'on voit se manifester. Il n'arrête pas de dire, avant moi, il est écrit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, après moi, il n'en aura point. Il dit ça de plein de manières dans les autres prophètes. Il n'arrête pas de dire, je suis le premier, le dernier. Comme Jésus disait, je suis l'alpha et l'oméga. Plusieurs fois, excusez. Surtout dans Apocalypse. Puis d'autres passages aussi. Dans Tite 1.4, il dit même, c'est moi. Dans Ésaïe, quand il continue, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Puis Christ est appelé sauveur dans Tite 1.4 aussi. Donc, on voit comment il se manifeste comme étant... Ça n'arrête pas le nombre de fois est-ce qu'il se manifeste le Christ dans les Écritures. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Donc, encore une fois, il n'arrête pas de dire, OK, là, je suis parmi vous, c'est pas un Dieu étranger, c'est moi, je suis le même. Je suis dès le commencement et nul des livres de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur. Le Saint d'Israël, encore un autre passage, hein, il parle qu'on a plus de valeur que les méchants. Là. J'envoie l'ennemi contre Babylone, il était captif à Babylone. Je fais descendre tous les fuyards, les Babyloniens qui vont fuir, même les Chaldéens, c'est un autre nom pour les Babyloniens, même les Chaldéens sur les navires dont ils tirent à gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéanti, éteint comme une mèche. Il parle de quand la mer a été en Égypte, là, la mer qui a été séparée. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle en Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est Christ. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Regardez ça, dernière affaire. Hein? Les bêtes des champs me glorifieront parce que j'aurai fait ça. Puis ça, c'est l'amour de Dieu qui pousse les bêtes à glorifier Dieu. Même les bêtes, là, quand on y pense. Puis encore à plus grande mesure, nous autres, toute l'œuvre de Dieu qui nous pousse à son amour. C'est, des fois, on tente d'aimer Dieu, comme dire que c'est le plus grand commandement, puis tout ça. Puis c'est vrai, là, ça l'est. Puis on serait incapable de le faire par nos propres forces. Là. Puis je crois que c'est en réalisant tous les bienfaits, puis ce que l'amour de Dieu a fait pour nous, que là, on peut le donner en retour. On voit tous ces bienfaits, on les a vus aujourd'hui, puis moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, je finis en disant, regardez tout l'amour de notre Dieu, ses bienfaits, et en faveur des fils de l'homme, comme il est écrit dans les psaumes. Seigneur, merci pour ton amour et tes bienfaits en faveur de nous. On est là à cause de ta bonté. On existe à cause de ta bonté et ton amour. Puis tu veux avoir une relation avec nous comme un époux puis une épouse. Une vraie relation remplie d'amour puis absente de toutes sortes de commandements et de lois statiques. Mais tu nous donnes ton amour, puis pour ainsi dire, la loi de ton amour en nous. Tu nous donnes Christ en nous, tu nous donnes les plus grandes richesses qu'on ne peut pas avoir. Le monde ne peut pas nous donner rien de ça. Il ne peut pas nous donner une espérance parfaite, mais toi, tu la donnes. Il ne peut pas donner les fleuves où il y a la solitude puis le désert, mais toi, tu le donnes. Quand on est assoiffé, toi, tu donnes de l'eau, il t'écrit. Il nous donne du pain dans l'angoisse et dans la détresse, donne de l'eau. Toi, tu es le Dieu qui peut donner littéralement de l'eau puis du pain, puis tu l'as fait souvent. Puis tu remplis notre âme de ton eau puis de ton pain. Tu dis, je suis le pain de vie. Puis on a l'eau, la parole, puis on a l'esprit. Merci Seigneur pour toutes tes richesses qu'on finit plus de découvrir quand on regarde dans ta parole, puis quand on regarde tes bienfaits qui se passent en ce moment même pour nous. Oh Seigneur, merci pour tout ça, à cause de Christ qui nous aime. Amen. Ça va être l'heure de chanter? Ou on a un temps de prière?
Non.
On n'a pas de temps de prière. Ouais, allons-y, on va prier.
Ben oui, il y a des temps de prière.
Ben là, on en a un aujourd'hui parce que t'es décédé.
Ouais.
C'est celui qui est préféré pour la fin. Il y aura des ruisseaux dans le
midi. On va l'essayer. Moi, je le connais bien.
Je le connais aussi. Ouais. Pareil,
là,
pour pas les notes, là, mais je l'aime beaucoup.
On va l'essayer, puis tandis qu'on est peu, ben ça pourrait...
Ça va venir.
Ouais.
C'est très beau.
Oui, hein, je l'aime.
Je suis très content que vous le réentendre.
Oui, hein. On va essayer ça après. On va prier.
Merci.
Veux-tu commencer, là?
Oui, Seigneur. Je te remercie pour cette parole encore cet après-midi. Puis, Seigneur Dieu, tu me fais voir encore ta grandeur.